Eh bien, bonjour et bienvenue à cette rencontre avec Franck Courtès autour de son livre À pied d'œuvre, un livre dans lequel vous racontez votre parcours, celui qui vous a mené de la photographie où vous étiez pleinement installé et reconnu en tant que portraitiste d'une bonne partie des personnalités du monde, à la littérature, puisqu'il y a eu un choix, une rupture entre les deux, un choix de changement de vie pour être plus libre, mais aussi pour renouveler votre création, vous qui aviez l'impression de tourner en rond dans vos dernières années en tant que photographe, tourner en rond dans tous les sens du terme sur la planète, et puis dans la répétition peut-être aussi de ce travail, mais aussi beaucoup plus pauvre, parce que voilà, d'un salaire de photographe portraitiste des personnalités de la planète au roman qui n'est pas forcément une économie où on fait des fortunes. C'est ce que vous racontez et l'entrée dans un autre monde du travail qui est celui de manœuvre pour pouvoir gagner votre vie et pour pouvoir aussi créer comme vous l'entendiez. C'est ce que vous racontez dans ce livre, ce dont nous allons parler ensemble dans cette petite heure. Pourquoi, après six livres, c'est votre sixième livre, pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui, à ce moment-là, de votre parcours d'écrivain, de revenir sur cette histoire ?
L'histoire est venue surtout d'elle-même. Alors que j'étais en train d'arrêter. Donc, je fais des petits boulots pour pouvoir écrire de l'autre côté, mais des petits boulots qui ne me correspondent pas du tout. Très dur, que je ne sais pas faire, dans lesquels je me noie la plupart du temps. Et à la fin, je voyais que j'étais en train de m'abîmer le corps et presque l'esprit aussi. Donc je me suis dit, je vais tenir un journal pour les derniers mois cette activité. Je vais tenir un petit journal personnel. Et puis en fait, en écrivant, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur... sur les gens que j'avais rencontrés dans ces petits boulots, les clients et les confrères manœuvres. Je dis manœuvre, je dis pas ouvrier, parce que c'est pas du tout la classe ouvrière comme on a pu la connaître. Sont des prestataires la plupart du temps sans papier ou travaillant quasiment au noir. Et c'est toute une économie souterraine qu'on soupçonne pas. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire lui-même ne soupçonnait pas quand il a lu le livre. Mais
c'est inquiétant.
Oui, bah oui, ils sont. Bah oui, en fait, c'est un monde d'invisibles, pourtant très présent.
Juste pour préciser, les petits boulots qu'on fait, c'est jardinier, c'est déménageur, ça va être réparateur de machines qui sont tous chez nous tombés en panne à un moment ou à un autre. C'est ça l'ensemble de votre activité.
Alors non, réparation de machines, non, je suis incapable. Non, je prête mes bras, je loue mes bras en fait. Donc c'est des évacuations de gravats, oui, des jardinages, du jardinage mal fait, enfin tout mal fait, tout moins bien fait qu'un vrai ouvrier. À la limite de la légalité aussi, puisque donc c'est une plateforme numérique qui est gérée anonymement par des algorithmes et des gens qui n'ont que des prénoms, pas de nom de famille. Évidemment, c'est bien pratique, c'est une espèce de nouveau patronat qui ne se salit pas les mains au contact des employés, donc c'est très pratique. Et donc oui, du jardinage sans outils, donc ça c'était mon premier travail. Arriver dans un jardin, parce que je cochais toutes les compétences pour avoir le droit d'avoir de nouveau le droit de travailler. C'est une espèce de cercle comme ça, vertueux, où il faut accepter tous les boulots pour en avoir d'autres et pouvoir éventuellement un jour choisir. Mais c'est dans une forme d'enchère. Hein. On est les six premiers qui répondons à l'annonce. On a le droit à partir de là de diminuer notre... On doit diminuer notre tarif au minimum pour être choisi. Donc on arrive à des taux horaires de 1, 2 euros parfois. C'est n'importe quoi, mais c'est aussi pour pouvoir continuer d'exister dans la logique de l'algorithme qui nous emploie. Et donc le premier jardin, je n'étais pas équipé, donc je suis arrivé avec une faucille que j'avais trouvée dans une brocante, que je trouvais jolie, mais j'avais que ça en fait. Donc il fallait désherber le jardin, tondre la pelouse et élaguer les arbres. Et là, je me suis dit, oh là là. Et tout ça pour 18 euros. Mais ça m'a pris 5 heures parce que bah, j'étais à quatre pattes, à couper l'herbe, en essayant de me rappeler comment faisaient les vieux dans les vidéos que j'avais vues. Et puis tout était comme ça. Tous les petits boulots que je commençais, il fallait que je regarde sur Internet pour voir comment on faisait. Et faire semblant d'être l'artisan aguerri quand j'arrivais chez les gens qui voyaient bien quand même que j'avais pas le look à descendre des gravats du sixième étage, ce que je faisais pourtant. Voilà.
On va revenir effectivement sur ce monde du travail qui est aussi l'un des cœurs de ce livre, mais je reviens sur ma question originelle qui était pourquoi ce livre aujourd'hui, pourquoi cette envie. Est-ce que c'est aussi un livre que vous avez écrit pour expliquer d'abord dans votre entourage familial, entourage d'amis, le choix que vous avez fait, ce que vous vivez depuis, parce que certains ont dit que c'était un choix fait par panache. Mais beaucoup n'ont pas forcément compris ce choix.
Ouais. C'est-à-dire, je l'ai écrit après l'épisode coronavirus, quoi, et j'avais entendu cette phrase que des métiers essentiels et que la culture, et ça continue de toute façon dans beaucoup de discours, on entend que la culture n'est pas si importante que ça, et les métiers artistiques. Et moi, j'avais vraiment envie de montrer à mes enfants qui était loin. Mes enfants sont grands, ils sont au Canada et ils ne savaient pas vraiment ce que je faisais. Et on m'a toujours reproché de m'être mis à écrire. Ça n'a jamais été bien accueilli dans ma famille, en fait. Alors que photographe, comme j'étais photographe pendant 26 ans, ça c'était très bien parce que je rapportais de l'argent et que c'était un métier artistique, mais commercial. Évidemment, la littérature, on n'est pas soumis à la pression des forces de l'argent, hein, on sait le moins qu'on puisse dire. Mais on est très libre, mais c'est mal considéré. Tant qu'on n'a pas un grand succès ou tant qu'on n'est pas reconnu vraiment, c'est pas bien vu. Donc je voulais montrer quel était le quotidien aussi d'un... Alors bon, là, c'est un écrivain, puisqu'il s'agit de moi, mais d'un artiste en général. Montrer que ce n'était pas uniquement un caprice et une pause intellectuelle, quoi, que j'étais prêt à tout et que j'étais prêt à aller très très loin pour pouvoir l'exercer. Et donc je voulais leur montrer ça, aux enfants d'abord, à la famille ensuite, et puis petit à petit les amis et puis le public maintenant. Et
Et ils l'ont compris parce que c'est quand même assez rude ce que vous écrivez sur ce qu'on a pu vous dire. On vous a accusé d'avoir fait un choix un peu égoïste et de ne pas faire attention à comment financer l'étude de vos enfants une fois qu'ils arriveront à l'université.
Oui. Bah, là, ça va être la petite séquence un peu triste, mais c'est qu'ils ne l'ont pas lu de toute façon. Donc,
Vous vous en donnez un aperçu, effectivement, dans le livre. On se doute qu'ils n'ont pas lu les autres non plus.
Ben, mon fils a lu un livre, mais non, ils ne sont pas tellement friands de savoir pourquoi leur père est devenu pauvre. Quoi. Ça, je pense que ça les angoisse. Quoi. Ils conjurent le sort. Et pourtant, j'ai essayé de rendre le livre le plus drôle possible. C'est un livre écrit sur le ton de l'autodérision, en fait. Mais bon.
Est-ce que vous l'avez écrit aussi pour mesurer justement ce chemin parcouru depuis que vous avez changé d'activité ? Parce que vous racontez cette bascule, les conditions financières qui changent, donc aussi les privations jusqu'à la fin que vous avez connue, qui sont pas forcément faciles. Mais comme vous ne l'avez pas écrit tout de suite, mais avec le temps, est-ce que c'était aussi pour prendre la mesure du temps passé et puis avoir bien consolidé le choix que vous aviez fait ?
Oui. Enfin, moi, je ne me suis pas rendu compte que je m'enfonçais dans cette précarité des petits boulots. En plus, avant de faire les petits boulots, j'ai quand même passé quelques années avec uniquement les droits d'auteur. Alors bon, quand on vend moins de 5000 exemplaires d'un livre tous les 2 ans et demi à peu près, on vit très très mal, quoi. Et je ne savais même pas qu'il y avait le RSA, je ne connaissais rien. Moi, je ne viens pas du tout d'un entourage où il y a des gens qui connaissent la misère. Donc, je suis tombé dedans avec une innocence et j'étais assez sidéré, quoi. Puis de découvrir aussi qu'on n'est pas loin de 10 millions à vivre ça, quoi. Je n'étais pas tout seul. Mais j'ai perdu le fil, excusez-moi.
C'était savoir si c'était aussi un livre pour prendre la mesure du chemin à parcourir.
Oui, c'est-à-dire que quand j'ai commencé vraiment à me blesser beaucoup et que les kinés et mon médecin m'ont dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» et que je mentais un peu, en fait. Je ne disais pas que je faisais des déménagements, des choses trop difficiles pour moi. Et que c'est là que j'ai un peu réalisé quand même que j'allais trop loin, que j'étais en train de m'abîmer beaucoup physiquement. Et là, j'ai pris la mesure du chemin parcouru, enfin de l'impasse aussi dans laquelle je m'enfonçais, parce que c'est pas viable de faire des petits boulots pour écrire. Enfin, c'est un schéma dans lequel je suis presque sorti, mais c'est pas viable. Et j'ai dit que c'était une expérience un peu intéressante à raconter.
Pas viable parce que financièrement, on s'en sort mal. Ouais. Pas viable aussi parce que ce sont des métiers qui usent le corps, vous l'avez dit avec les blessures, mais qui usent aussi l'esprit et le temps de création. Qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire en tant qu'écrivain quand on fait cette autre activité à côté ?
Non, le temps, ça va. C'était précisément pour ça que j'avais choisi de faire des petits boulots, des missions comme ça, parce que ça ressemblait justement à l'époque de la photo où on m'envoyait à droite et à gauche pendant... soit une heure, soit deux jours, quoi. Mais non, justement, ce manque de régularité dans le travail, de routine, permet d'écrire. Et puis, il y a plein de gens qui écrivent avec un métier de prof ou de journaliste ou d'autres. Donc, non, c'était plutôt du point de vue de libérer du temps pour l'écriture. C'était assez salutaire. D'autant plus que quand on avait passé une matinée à nettoyer des chiottes de restaurant, des choses comme ça. On avait un plaisir particulier le lendemain à se mettre à sa table au travail et d'écrire et de côtoyer des outils un peu plus beaux, plus nobles que la serpillière, quoi.
Ce que vous avez connu, et vous l'utilisez, un mot que vous utilisez à plusieurs reprises, s'appelle la pauvreté. Qu'est-ce que ce mot voulait dire pour vous, puisqu'il revient à plusieurs reprises, même si à un moment, vous lui préférez une autre expression, une autre image, celle d'être riche sans argent?
Oui.
En raison de là où vous veniez, du mode de vie qui était le vôtre en tant que photographe.
Oui, ce qui a beaucoup changé dans ma vie, c'est vraiment d'abord de m'éloigner sans le vouloir de ma classe sociale d'origine, c'est-à-dire d'avoir encore des amis avec qui je dîne et qui me demandent si je suis partant pour les sports d'hiver l'année prochaine, des choses comme ça. Et de devoir leur dire non, je peux pas, et que ça soit un peu ambigu, je peux pas parce que eux ils pensent tu peux pas, t'as autre chose à faire, et moi je peux pas financièrement, et puis plein de choses comme ça, donc un peu, alors pas tout à fait exclu de cette classe sociale, mais enfin en tout cas ne plus pouvoir partager les mêmes quotidiens, les mêmes activités, et en même temps pas du tout accepté dans une nouvelle classe qui serait une classe plus populaire, plus pauvre, parce que de toute façon on n'est pas, on fait pas partie de leur monde, les artistes en tout cas, les écrivains et les anciens riches surtout, ils le sentent, il y a pas de c'est très difficile. Alors moi maintenant j'habite dans un petit village et je vois il y a toujours une différence. Et j'ai beau leur dire que je suis toujours au RSA et que je fais des petits boulots, je reste quand même à part. Donc oui, j'ai conservé des goûts de riches en plus. J'ai du mal à aller faire mes courses dans les centres où on vend de la nourriture transformée, dégueulasse. Moi, je suis habitué à des trucs bio. Et là, maintenant, j'en suis privé, évidemment, hors de question. Mais j'ai une double souffrance, c'est que je n'ai pas grandi là-dedans, je le découvre. Bon, voilà, ça ne va pas pleurer non plus sur mon sort, mais... C'est un des aspects aussi du livre, c'est la surprise de se retrouver entre exclu de sa classe d'origine et pas accepté par la nouvelle, en fait. Et me rendre compte aussi que les ouvriers sont des gens très qualifiés, sont des princes des travaux manuels, quoi. Les manœuvres, on est rien, quoi. Moi, je mélangeais du ciment pour les ouvriers, quoi. On fait des choses que, précisément, les ouvriers ne feront pas, quoi. Alors, je parle des ouvriers artisans, hein, pas des ouvriers en usine, pour lesquels on ne travaille pas, quoi.
Est-ce que, du coup, c'est une activité, un statut qui vous a isolé ? Parce que vous racontiez les vacances au sport d'hiver que vous pouvez plus faire avec vos amis d'avant, mais aussi ce nouveau monde du travail auquel vous ne correspondez pas tout à fait et qui revient effectivement, cette différence, elle traverse aussi le livre. Est-ce que du coup c'était aussi un monde plus solitaire qui est devenu le vôtre ?
Oui, par l'argent déjà, une solitude par l'argent, parce que de toute façon une vie d'indigence, c'est une vie très très monotone où on répète toujours les mêmes choses, on va aux mêmes endroits faire les courses, on fait pas grand chose. la littérature aussi, hein, l'activité littéraire est une...
C'est pas la photographie, vous êtes sans cesse en train de rencontrer des gens.
Voilà, hein. Oui, heureusement que j'ai fait ça pendant plus de 25 ans, parce que ça m'a laissé plein de souvenirs, mais c'est vrai que la vie littéraire est quand même... Il faut vraiment se forcer à bouger. Sans argent écrivain, on cumule les handicaps. Quoi. On ne peut pas juste prendre sa bagnole et partir dans le sud de la France pour vivre une expérience. Non, parce qu'on compte le péage, l'essence, c'est impossible. Donc c'est vrai que ça isole beaucoup. Et puis, oui, le déclassement, parce que c'est un véritable déclassement, en fait. Isole énormément, oui. Ouais.
Alors, devenir écrivain, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? Qu'est-ce que vous espériez à l'origine? Parce que, certes, déclassement social, mais même si vous avez dit effectivement que c'était mal considéré, ça peut aussi, et surtout en France, c'est aussi un statut social, en tout cas une certaine représentation dans la société de ce statut-là.
Oui, mais je ne voulais pas devenir écrivain. C'est à force de, je voulais écrire. Après, on le devient, on ne devient pas. C'est un peu le regard des autres qui vous fait écrivain. Mais oui, c'est vrai que ça a une position assez particulière. J'ai remarqué que j'ai beau crier sur les toits que je n'ai pas un rond ou que... Je continue à recevoir une espèce de respect de la part de... On peut côtoyer dans une soirée un avocat ou quelqu'un, je ne sais pas, de assez haut placé, un bourgeois en général. On n'est pas tout à fait un pauvre comme les autres. Quoi. On le sent, quoi. Et c'est assez amusant. Oui, c'est assez amusant. On est un peu... Je crois que j'ai une image comme ça de... On est à ce que 5 heures du soir en hiver sont, c'est-à-dire qu'il fait sombre, mais ça n'est pas tout à fait la nuit. Quoi. Et voilà, on n'est jamais considéré complètement comme quelqu'un d'infréquentable ou d'un paria. On reste, même si on participe plus du tout financièrement à l'énergie commerciale du pays, on continue de bien nous considérer. Quoi. C'est plutôt agréable. Ça aide.
Évidemment. Mais ces manœuvres qui a été la source de revenus, pourquoi ces manœuvres que vous avez choisies? Parce qu'il n'y avait pas de compétences du photographe que vous pouviez réutiliser pour d'autres activités?
Non, la photo, de toute façon, je ne voulais plus en faire partie. J'avais épuisé tout mon amour de ce métier. Il s'était épuisé 10 ans avant que j'arrête. Hein. J'ai mis 10 ans comme un vieux paquebot à m'arrêter parce que, en fait, c'est très difficile d'arrêter. J'arrivais même pas à verbaliser que je m'arrêtais. J'avais de plus en plus de mal à affronter les portraits que je devais faire de gens. Je m'énervais beaucoup. J'ai failli me battre plusieurs fois avec des gens. Je crois qu'une de mes dernières photos, c'était Joe Star et. Ça a failli être un pugilat, quoi. C'était horrible.
En plus, effectivement, ce n'est pas la personnalité la plus calme
dans
la réputation.
Heureusement que j'ai réussi à pleurer dans mon coin. Et que, sinon, si je m'étais vraiment énervé, comme j'en avais l'intention, je ne serais pas là aujourd'hui, je pense. Je ne faisais pas le poids. Et puis, une lassitude, un dégoût. Et je n'ai pas pu... En fait, je ne pouvais pas faire d'autres métiers que reporter, photographe. Je ne me voyais pas travailler, malgré un CAP de laborantin, j'aurais pu peut-être trouver une place dans un labo, quoique maintenant, de toute façon, tout est numérique. Donc, non. Et puis l'iconographie dans un magazine, je ne pouvais pas aller de ce côté-là de la photographie. J'avais trop été... dans la partie créative, quoi, pure. Je ne pouvais pas revenir en arrière. En revanche, embrasser d'autres formes de métiers, ça m'excitait beaucoup. Mais j'ai cherché. Hein, l'autre solitude aussi, dont on parlait de la solitude, c'est l'âge. Sur le marché du travail, on réalise... moi, je crois que j'ai arrêté, j'avais 48, 50 ans. 50 ans. Non, j'ai commencé à chercher du travail vers 50 ans, 52 ans. Et c'est fini, quoi. Sans diplôme, personne ne veut de vous. J'ai essayé qu'est-ce que j'ai essayé? Des gardiens de parking, c'était impossible. Je me suis rendu compte que c'était des places très recherchées. Je ne sais pas par qui, mais parce que c'est quand même difficile, je sais pas. Il ne faut pas dormir la nuit. Des gardiens d'hôtel, ils prennent des jeunes. Tout comme ça, j'ai cherché serveur aussi, évidemment, parce que J'ai traversé la rue, j'ai demandé.
Et le boulot n'était pas là.
Et le seul boulot de serveur que j'ai réussi à avoir, c'est par des anciens copains qui ont monté un restaurant et qui m'ont dit « Ah bah ouais, viens nous aider !» Voilà. Mais c'était hyper dur, en fait. Et voilà, je ne sais plus.
Voilà comment vous êtes devenu manœuvre, parce que tous les autres métiers, vous acceptez pas. En tout cas, il n'y avait pas les qualifications, l'expérience.
Oui, je me suis retrouvé dans la peau de quelqu'un qui sait rien faire. Je me suis retrouvé tout à coup à devoir gagner de l'argent pour manger, alors qu'en plus, moi, le rapport à l'argent, c'était vraiment... ça tombait sur mon compte en banque, je ne vérifiais pas, je négociais pas les prises de vue. Alors parfois, c'était 10 000 euros pour une pochette de disques, et puis parfois 100 euros pour une photo dans l'IB. Mais pour moi, c'était pareil. Ce qui comptait, c'était de faire la photo, et puis l'argent, ça venait. Il y a énormément d'argent que j'ai perdu parce que j'ai pas réclamé les factures. Quand j'y pense, c'est fou, quoi. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, j'avais pas non plus une vie très dispendieuse. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai bien tenu dans la pauvreté, parce que je suis pas quelqu'un de très dépensier. Mais voilà, l'argent était naturel. Et là, après, avec la littérature, je suis tombé de haut. C'est-à-dire que les petits boulots, tout à coup, j'étais à 2 euros près. J'économisais sur les vis, parce que les vis, ça coûte quand même 30 centimes. Donc j'économisais dès que je pouvais. C'était horrible.
Et voilà comment vous êtes devenu manœuvre. Je vous ai proposé de lire deux extraits. Donc
okay.
Je propose qu'on découvre le premier à présent.
C'est pas long, hein, vous inquiétez pas. Moi, j'aime pas les lectures quand je suis dans le public.
Alors, merci d'autant plus d'avoir accepté.
Je me mets à votre place, quoi. C'est ainsi, par un chantier peu payé auquel rien ne m'avait préparé, que j'ai changé de vie. Changer de vie, quand celle-ci vous est devenue insupportable, s'avère moins difficile que de ne pas en changer du tout. Ma première impression agréable, quand je commence mon activité de manœuvre, est à peine avouable tant elle est puérile. Il s'agit du plaisir de pouvoir se salir légitimement. Un plaisir approchant celui qu'ont les enfants à sauter dans les flaques de boue. Puisque je monnaie essentiellement ma disponibilité physique, il me faut reprendre du poids et des forces. Sur les conseils de mon médecin, je mange du pain avec du beurre, des pois chiches avec des sardines à l'huile, des pommes de terre et des œufs, toutes ces nourritures bon marché et caloriques dont j'avais par le passé pris l'habitude de me méfier. Le médecin sourit en me laissant partir. Vous êtes le premier patient de votre âge à qui je dis de manger plus gras. Je suis celui qu'on appelle non parce qu'on ne sait pas faire quelque chose de difficile, mais parce qu'on ne veut pas le faire. Laver les vitres, descendre des meubles aux encombrants, nettoyer des terrasses, vider des caves, désherber des jardinets. Je ne suis même pas ouvrier, je suis manœuvre. Je gagne environ 15 euros pour une matinée de travail, parfois 20 avec le pourboire, parfois moins quand plusieurs manœuvres désirent la même mission et que le client fait baisser le tarif. Je n'obtiens du travail que 2 ou 3 fois par semaine. Certaines semaines, je postule en vain à des dizaines de travaux. Il faut jouer des coudes. 1 euro de différence dans votre tarif suffit à vous faire perdre l'enchère. Quand je suis choisi, je redouble de zèle chez le client, allant jusqu'à passer l'aspirateur après mon travail, sourire et attendre dans l'entrée qu'on m'invite à entrer dans le salon, dans l'espoir d'augmenter mon pourboire. Elle me sera vite venue, la docilité du pauvre. C'est drôle ce que 3 euros ont d'importance pour moi aujourd'hui. Je suis tout sourire, serviable au possible. 3 euros, je m'en décrocherai la mâchoire. 5, c'est Noël. On comprend vite l'argent quand on n'en a plus. À certains de mes gestes, on ne peut, en dépit de mes efforts pour m'assimiler, me confondre avec les ouvriers dont je rejoins malgré moi les rangs. Travailler comme eux ne suffit pas à faire de moi un ouvrier. Cette politesse... Ces bonnes manières dont j'use un peu trop paraissent suspectes et amenuisent, au lieu de les augmenter, les chances qu'on me fasse confiance. Un ouvrier compétent ne s'embarrasse pas de tant de délicatesse. Une certaine morgue démontre même que c'est le client qui a besoin de lui et non le contraire. À la première manifestation de ma courtoisie, il devient évident pour mes clients que j'ai davantage besoin d'eux que de moi. Parfois, mon amour-propre souffre, comme cette fois où j'ai découvert des pigeons morts, couverts d'asticots sous des planches sur un balcon que je devais libérer de ses encombrants. chez une étudiante en mode qui faisait un stage dans une maison de haute couture dont j'avais connu personnellement la directrice artistique. Il me suffit parfois de penser aux humiliations plus subtiles que la photographie de presse m'a fait subir par le passé pour me redonner du cœur à l'ouvrage. Afin de déjouer mon esprit qui se révolte contre la vacuité et l'ingratitude de ces tâches, il m'arrive de m'imaginer en mission d'espionnage, jouant un rôle escroc mondain déguisé en ouvrier, l'Arsène Lupin du bricolage. Je ne suis plus le pauvre gars qui descend des objets infects par l'escalier, mais un agent effectuant un repérage pour le compte de la DGSE, truffant les pièces de caméras et des micros.
Merci beaucoup. Merci. Pour cette lecture. En tous les cas, nous et moi, j'ai pris du plaisir à vous écouter, lire, ce qui permet en même temps d'entendre votre écriture et puis l'humour, effectivement, avec laquelle vous racontez cette histoire. On l'entend un peu dans ce passage, effectivement, cette différence avec vos collègues, mais ce n'est pas vraiment des collègues concurrents, je ne sais pas trop comment on peut dire. Jusqu'où est-ce que vous êtes identifié à ce travail? Jusqu'où est-ce que vous l'avez considéré comme constituant ce que vous étiez? Parce qu'on est aussi en France, dans un pays où le travail participe de l'identification.
Tous les petits boulots, je les ai parfois mal faits, mais j'ai toujours cherché à extrêmement bien les faire. Et ça fait partie de mon caractère. Je trouve que ça participait d'une énergie. J'avais pas une journée, finalement, entre la littérature et les petits boulots où j'étais pas en activité, en train de chercher à faire quelque chose de bien. Et puis, l'avantage de ces services qu'on rend comme ça, même si on les fait payer, bien sûr, c'est qu'on a l'impression d'être très utile à des tas de gens, et en particulier à des femmes. J'ai découvert que l'essentiel de mes clients étaient des clientes, comme si les bras des hommes de leur entourage avaient disparu, ou comme s'il n'y avait plus de père, de mari, de frère. Et donc, j'arrivais chez ces femmes avec cette impression flatteuse et très nouvelle pour moi de jouer à l'homme, quoi. Donc je m'identifiais. Oui, ça a flatté quelque chose en moi d'abord de réussir aussi à les faire. J'étais assez fier de moi. Je mettais un point d'honneur, mais stupide, à vouloir par exemple les évacuations de gravats dans des chambres de bonne. Que les propriétaires emploient des gens comme moi au noir pour que ça coûte moins cher. Au lieu de prendre tout mon temps, comme aurait fait un professionnel, moi, je le faisais le plus vite possible pour obtenir un compliment, quoi. Parce que le pourboire, surtout sur les trucs de gravat comme ça, on n'en avait jamais. Donc, il m'arrivait, des journées à 40 euros entières à descendre des gravats, me bousiller les genoux. Et je ne sais pas pourquoi, mais oui, je m'identifiais au rôle, je prenais le rôle très au sérieux, je le faisais absolument sans aucun recul, je ne réfléchissais pas à ce que je faisais en me disant je mérite mieux ou je ne devrais pas faire ça ou qu'est-ce que je suis courageux. Non, je le faisais avec beaucoup de cœur, quoi, et ça participait d'une dynamique de travail, quel qu'il soit en fait.
Avec la pression ou non de la folie de l'évaluation, parce que c'est ça que vous racontiez un petit peu aussi déjà tout à l'heure, c'est qu'évidemment, ce métier-là, pour avoir le job d'après, il vaut mieux être bien référencé. Et pour être bien référencé, il faut être bien évalué, puisqu'on se demande sans arrêt d'être évalué dans ces plateformes.
Oui. Mais j'ai du mal à donner des notes aux gens maintenant quand je sais pas, un type de DF vous envoie le truc de vous mettrez une bonne note. Est-ce qu'on ne peut pas en finir et boycotter les notes aux employés, quoi, tout simplement? C'est une pression supplémentaire sur le dos des gens. Je trouve ça un peu malsain, quoi. Mais il y avait cette pression de l'algorithme, oui, qui vous sanctionne si vous n'avez pas les bonnes étoiles, hein, parce que c'est des étoiles, système d'étoiles. Tout est ludique, c'est des applis sur téléphone. Et puis cet usage des prénoms aussi qui nous isolait complètement, qui en fait, sous couvert, c'est assez hypocrite, sous couvert de convivialité, le prénom, ça a l'air de faire appel à l'univers de l'amitié, amical, et en réalité, c'est une mise à distance totale de la partie, de votre partie humaine, et ça enlève toute considération humaniste de l'employé, en fait. C'est comme dans les bordels avec les prostituées, quoi, où les clients ne veulent absolument pas savoir le nom de famille des filles. C'est Eva, c'est Emma. Mais si tout à coup ça devient, s'il y a un patronyme, tout à coup, on se dit, ah tiens, c'est un patronyme de, ça vient de Bretagne, vous êtes bretonne. Tout à coup, il y a quelque chose qui sort le client de ce qu'il est venu chercher, c'est-à-dire l'exploitation d'un corps en fait et d'une force. Enfin, pour les prostituées, c'est vraiment uniquement le corps. Et ben, pour les ouvriers, les nouveaux ouvriers dont je faisais partie, je pense que si j'avais donné mon nom de famille, ça aurait créé probablement un peu d'empathie, de curiosité. Donc l'usage des prénoms, c'est quelque chose de très pervers en fait. Et nos employeurs, enfin les dirigeants de la plateforme, alors eux, c'est aussi des prénoms qui ne sont pas les leurs d'ailleurs, qui sont des prénoms empruntés et contre lesquels on ne peut jamais se retourner. Enfin, on ne peut rien faire. C'est une gestion. Et puis l'algorithme, évidemment, qui gère tout. Donc ils se défaussent derrière l'algorithme. Ah, mais nous, on n'y peut rien. Vous avez refusé un boulot la semaine dernière, donc l'algorithme vous propose moins de... Donc il y a cette pression comme ça, froide, on a l'impression de devoir d'être employé par un répondeur téléphonique en fait. Bon, après quand on va chez les gens, il y a des bonnes surprises et j'en profite pour faire une galerie de portraits de clients qui sont, c'est pas du tout manichéen, je suis pas en train de monter une classe sociale contre une autre, pas du tout. Je pense que les clients qui embauchent des gens comme moi, bon, alors, il y a effectivement des radins, il faut le dire, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, et en particulier des jeunes qui arrivent, qui s'installent, et ils n'ont pas d'argent. Et en fait, tout ça se nourrit dans une espèce de pauvreté qu'on s'échange comme ça. C'est une révolution en plus du travail, parce que aujourd'hui, si vous voulez changer les joints de votre salle de bain, si vous demandez à un artisan qui va vous prendre, je ne sais pas, 300 euros, ou si vous me demandez, je vous prendrai 30 ou 25 euros, c'est vite...
Ouais, vite fait, ouais.
Et ça, c'est très malin de la part des gens qui ont créé ces algorithmes, ces plateformes numériques pour, en façade, mettre du beurre dans les épinards de retraités ou d'étudiants ou de sans-papiers, oui aussi, mais enfin bon, ça je pense pas qu'ils le disent en façade, mais en réalité c'est vraiment l'exploitation, alors non plus vraiment des ouvriers, mais de l'accès au travail, quoi. Eux ils prennent une petite marge sur la transaction. Alors, si on est payé 10 euros, ben, ils prennent quand même 1,50 euros à chaque fois. Et sur la quantité, ben, ils prospèrent là-dessus. Ils prospèrent sur cette masse de gens exclus du monde du travail, qui ont fait des burn-out, ou qui sont des artistes qui ne réussissent pas à vendre comme ils vous le souhaiteraient, ou des retraités qui ont des retraites trop petites. Ils exploitent ça, ils exploitent l'accès à des services. Donc, quand on le fait, on ne se rend pas compte. On est plutôt content de gagner 20 euros de temps en temps et ça permet de faire les courses. Mais en fait, il y a quelque chose de très malsain aussi là-dedans, quoi.
Ce qui participe à brouiller la difficulté à nommer ce que vous faisiez, à nommer ce que vous étiez, le métier qui était le vôtre. Vous y revenez aussi à plusieurs reprises, notamment une fois en posant des points d'interrogation après chacune des expressions que vous passez en revue. Est-ce qu'on peut dire ouvrier freelance? Est-ce qu'on peut dire manœuvre indépendant? Est-ce qu'on peut dire homme à tout faire? Il y a une recherche aussi de comment se qualifier.
Oui, parce qu'à un moment, je me dis, bon, bah voilà, c'est ma vie, c'est mon travail. Donc, enfin, non, je me considère d'abord comme un auteur, voilà. Oui. Mais comment je peux parler aux gens de ce que je fais, aux amis, quoi? Et puis, en fait, très vite, je me suis rendu compte que, de toute façon, les amis étaient, mais même les plus proches, et je ne leur en veux pas du tout. Hein, parce que mais à chaque fois que j'ai essayé d'évoquer ce que je faisais, ils ne voyaient pas, quoi. Donc, il y a pas mal de copains qui, après avoir lu le livre, m'ont exprimé leur regret de ne pas avoir compris sur le coup. Et je leur dis, mais j'arrivais pas vraiment, c'est pas de votre faute, quoi. Alors, ils n'entendaient pas, ils ne pouvaient pas... ils pouvaient pas imaginer que le photographe, un peu toujours un peu parti aux quatre coins du monde avec des gens connus, tout ça, puisse se retrouver, voilà, à faire des trucs, laver des vitres pour des vitrines ou des choses comme ça. Ils pouvaient pas le concevoir en fait. Donc le livre a permis d'abord qu'ils le conçoivent et puis donc ils se sont excusés. Je leur ai dit, mais non, moi j'avais besoin, et j'ai toujours besoin d'ailleurs, qu'on ne me considère pas uniquement comme ça. J'avais peur de leur réaction. J'avais peur, les connaissances allaient être de la pitié, et ça c'est terrible. Quand on sent la pitié de la part de ses amis, c'est affreux. Ou du mépris, c'est-à-dire de les perdre comme amis, quoi. C'est idiot, j'aurais dû tout dire, mais bon, voilà, moi je l'ai dit dans un livre. Ils l'ont lu, ça c'est bien.
Absolument. Comment vous... ce qui est passionnant, c'est qu'il y a à la fois cette vie et puis ce regard aussi sur le monde du travail. Comment vous choisissiez les spécialités que vous pouviez proposer? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous alliez parfois vous former, vous auto-former en allant regarder des vidéos sur Internet. C'est comme ça que vous avez découvert, par exemple, qu'il y avait un championnat du monde de laveur de carreaux et comment l'écriture du livre « Le champion du monde Cocorico » était un Français. voilà, ça donne des choses très, très étonnantes, très drôles parfois. Mais comment vous choisissez dans quelle spécialité aller, et puis comment vous former du coup à cette spécialité?
Alors, j'ai pas choisi, hein. J'ai voilà. Toutes cochées, quoi. Toutes, absolument toutes, quoi. Sur le site, voilà, il y a tout un petit questionnaire de ce qu'on est capable de faire. Alors,
ça fait une page entière à la fin.
Et j'ai tout fait.
Alors, rentrons chez les gens, parce que c'est aussi l'un des plaisirs de ce livre avec le deuxième extrait, c'est que ça nous raconte tous, en fait. Hein. Ça raconte le monde du travail, mais ça raconte aussi comment nous, on peut se considérer avec les gens auxquels on fait appel. Et donc, je vous propose, si vous êtes d'accord, le deuxième extrait.
OK. Bon, vous l'aurez voulu.
Et on en est content.
Bon, merci. Avec l'expérience, mes erreurs se raréfient. J'aime particulièrement démonter des meubles destinés aux encombrants, car la destruction à coups de poing, de genoux ou de pieds me défoule. En moins d'une demi-heure, je débarrasse un salon de ces vieux meubles, sous les yeux ébahis d'une cliente qui m'a réservé pour la journée. C'est une besogne très gratifiante. On me remercie de l'espace que je viens de libérer. J'agrandis les logements. Dans le vide prometteur des pièces, la voix des propriétaires résonne d'enthousiasme. Avec les déchets que j'ai descends par l'escalier, c'est une vie qu'ils ne supportaient plus que j'emporte. Si la photographie m'a donné accès à l'intimité de mes modèles, le bricolage me l'a fait rapprocher bien davantage. Avant un portrait, les modèles se maquillent, se changent, puis reçoivent le photographe. Ils n'ont pas tant d'égard pour l'installateur d'étagères dans la salle de bain. Les hommes sont nu-pieds, les femmes en t-shirt et presque tous en pantalon de jogging. Il y a un négligé dans leur mise qu'on ne leur verrait nulle part ailleurs. J'entre moins chez eux que sur une scène de théâtre, avec la peur d'y rater ma performance, de mal jouer la comédie du professionnel. Une des raisons pour lesquelles ces travaux de bricolage ne m'ennuient pas tient au fait que je les exécute dans une parfaite improvisation. Je n'ai rien de cette lassitude débonnaire qu'on voit au visage des professionnels. Toujours me frappe l'odeur particulière, vaguement érotique, des vies inconnues. Les femmes constituent la grande majorité de ma clientèle. Les étudiantes et les femmes divorcées sont légion. Il y a dans la location d'un homme à tout faire le constat de solitude. Les hommes, les pères, les frères, les maris, les amants, les amis semblent avoir déserté leur monde. Leurs bras manquent à l'appel. Faire l'homme chez une femme est une chose désuète à laquelle je ne suis pas habitué. Parfois, l'ajustement d'une poignée de porte ou le déplacement d'une armoire me vaut de petits applaudissements de joie. Je rétablis l'ordre dans les appartements de dizaines de jeunes femmes ébahies par la disparition du frottement de la porte de leur placard, le resserrement des lattes du plancher qui menaçait depuis des années leurs orteils. J'améliore très modestement la vie des gens et ce n'est pas sans regret que je quitte ces lieux que j'ai rendus plus agréables à vivre. Du haut de mon escabeau, j'ai tantôt une vue d'une chef d'entreprise en leggings à rayures roses et pantoufles à pompons, dictant ses directives à un collaborateur avec le même sérieux que celui qu'elle aurait en le recevant dans son bureau. Tantôt celle d'une fille, les yeux au ciel, cherchant à raccrocher avec une mère que l'inquiétude de la savoir si loin du foyer rend bavarde. « C'est quoi ce bruit, ma chérie ? Mais tu sais bien, maman, c'est le monsieur pour les rideaux. Je préfère rester en ligne. Maman !» Ces femmes ne font pas de manière devant l'ouvrier que je suis supposé être. Les rognures d'ongles sur le bord de la baignoire, le linge sale abandonné au pied d'une commode, rien de leur intimité ne m'est dissimulé. Une fois, en déplaçant un lit, je tombe sur un préservatif usagé. Ma cliente le ramasse et l'emporte sans un mot. Une autre fois, la jeune fille a laissé sur le lit de sa chambre dans laquelle j'interviens le livre « Jouissance Club », une cartographie du plaisir de June Pla, dont la couverture montre des dessins délicats de fellation et de cunnilingus. Lors de mes rendez-vous photographiques, j'avais souvent l'impression qu'un ménage de fond venait d'être fait. Certaines vérités m'étaient inaccessibles. Elles se dérobaient à la vue de mon appareil. On avait rangé.
Merci beaucoup pour la lecture de cet extrait. Parce qu'après les portraits photographiques, forcément, il y a des formidables portraits en littérature de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Jusqu'où est-ce que ça a pu changer ou a ouvert un nouveau monde, ce métier-là ? Parce que c'est aussi un formidable livre sociologique qui raconte le monde tel qu'il est aussi.
En quoi le livre ou la littérature, Ange ?
Alors, ce travail-là, ouais. de manœuvre, jusqu'où ça vous a, ça a pu changer la perception du monde ou ouvert à un autre monde ?
Déjà, ça m'a appris à bricoler. C'est hyper, hyper agréable. Mais pas tellement, à vrai dire. À la réflexion, j'ai pas découvert. Enfin, je suis pas une noix blanche non plus. J'ai l'âge que j'ai. Je sais comment sont les gens. J'ai pas été surpris que même des gens très riches essaient de faire une petite économie. C'est humain. D'ailleurs, la plateforme dont je parle, dont je suis obligé de taire le nom pour des raisons de procès, c'est une de mes meilleures amies qui m'a dit « J'utilise beaucoup de gens, voilà, j'utilise beaucoup cette plateforme, tu devrais y aller, c'est super, ils sont gentils. » Et tout ça. Et maintenant, évidemment, elle le fait plus, elle a compris le... Mais donc je jette pas la pierre aux gens qui utilisent cette main d'œuvre non déclarée, qui cotisent pour rien, qui ces livreurs à vélo qui traversent Paris, qui se foutent en l'air les genoux par tous les temps. Je condamne pas qu'on utilise ça. Moi, je peux plus le faire évidemment, ni en tant que client, ni en tant que prestataire. Parce que je suis fatigué de toute façon de le faire, mais maintenant oui, j'ai pris conscience quand même qu'il y avait une grande misère derrière tout ça, quoi. Et puis c'est pas un modèle que j'ai envie d'encourager. C'est pas la peine d'être parti de la photo parce que j'étais en colère de la manière dont on utilisait de plus en plus l'image pour formater les pensées, pour formater les goûts des gens, pour faire acheter des choses. Je trouve que c'est quand même 80% de la photo presse aujourd'hui est faite pour faire la promotion d'un objet à vendre, qu'il soit culturel ou autre. C'est pas la peine d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir assumé ma colère et mon rejet de ce monde-là, si c'est pour après continuer à faire bosser des gens et à collaborer finalement à une économie souterraine. Qui assure aucun avenir, surtout aux jeunes, quoi. Ça m'effraie toujours, quoi.
Mais là, c'est presque l'inverse de ce que vous avez dit, ce que vous avez connu entre la photographie qui arrange ou qui vend une certaine idée du réel et puis ce métier de manœuvre qui vous fait pénétrer dans l'intimité du réel et vous fait découvrir que les appartements les plus luxueux ne le sont pas forcément toujours parce qu'il y a plein de trucs détraqués à l'intérieur.
Ouais, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'il y a derrière les grandes façades quand il y a des propriétaires ou des locataires quand il y a des logements qui sont mis aussi en location touristique. Ouais. Voilà, là, on est vraiment sur la réalité. La plus crue et la plus variée.
Oui, il y a quelque chose d'un peu, des grands appartements où vous vous rendez compte. Si j'étais invité à une fête dans cet appartement, j'aurais certainement vu les salles de réception, le salon, etc. Mais je ne serais jamais allé dans les salles de bain et dans les toilettes et dans les chambres et tout ça. Et là, je voyais des appartements, c'est vrai, où finalement tout était concentré dans un espace de réception un peu chic, et que tout le reste était dans un sale état. Et c'était souvent là que j'allais intervenir. Et moi, j'adorais. J'avais l'impression de descendre dans les soutes d'un paquebot de luxe, quoi. C'était vraiment très drôle, quoi.
Et en même temps,
et puis les Airbnb. Voilà, oui.
Grosse différence entre les logements occupés et les logements la location touristique.
Oui,
dans la manière dont on fait appel à qui et pour faire quoi.
Oui, quand on achète un petit deux pièces à Paris, alors qu'on habite à Besançon, mais que c'est uniquement pour le louer en Airbnb, on ne peut pas revenir sans arrêt s'occuper des linges, de faire le ménage, etc. Donc on emploie des gens. Sauf que si on emploie des gens vraiment déclarés, professionnels, on perd tout le bénéfice de la location, donc ce n'est pas intéressant. Donc finalement, on se retrouve avec des gens comme moi qui vont changer les draps, acheter chez Ikea des couettes, refaire ce qui a été cassé, nettoyer un peu. Et donc j'ai découvert effectivement toute cette industrie de la location touristique et qui vit de les centres-villes, évidemment. Et avec des matériaux en général les moins chers possibles. Et tout est tiré vers le bas. Quoi. La déco est pourrie. Les cloisons, c'est du placo le plus cheap. Mais c'est pas grave. Tout ça est fait pour juste louer pour une nuit ou deux. Voilà. J'ai découvert tout ça. Ouais.
Mais est-ce que tout ça, c'est pas pour un romancier aussi de matière formidable? Bah oui, parce que forcément, vous en profitez, vous nous en faites profiter oui. Par ce livre. Ça participe aussi à la construction, à l'élaboration du livre.
Mais oui, mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'était un matériau. Enfin, quand j'ai commencé à me dire que je pouvais écrire là-dessus, je me suis dit que j'avais un super matériau. Oui, c'est vrai que là, je manque un peu d'expérience maintenant. Là, c'est vrai que ne plus faire qu'écrire. Bon, il m'arrive de faire encore un peu des petits boulots. Je vous laisserai mon numéro de téléphone. Si je ne suis pas très cher. Mais j'en fais beaucoup moins, quoi. Et c'est vrai que oui, là, je suis reparti dans une vie beaucoup plus solitaire, quoi. Ça me manque un peu, oui, les petits écarts, les expériences. Ouais. Il va falloir que je m'invente quelque chose d'un peu dangereux, là.
Puis les choses étonnantes, parce que parfois on vous a reconnu en tant qu'écrivain, vous êtes passé à la grande librairie, et quand on était dans la restauration, ce qui a valu à un client, c'est devenu n'importe quoi. La restauration, on y trouve des écrivains maintenant. Ouais. Il y a aussi le télescopage de ces deux activités qui sont survenues malgré vous parfois.
Oui, et moi je me réponds, je m'entends répondre tout doucement, bah non, c'est la littérature qui est devenue n'importe quoi, on y trouve. Mais oui, oui, il y a des gens qui m'ont reconnu et qui se demandaient ce que je faisais, leur servir leur plat et obéir à la sonnette d'envoi des plats. Oui, c'est vrai que c'est. Mais bon, en fait, c'est français, ça, cette surprise, hein, parce qu'aux États-Unis, je crois qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont des boulots.
Soit ils sont universitaires, soit c'est vraiment classe ouvrière populaire.
Voilà. Je sais plus qui était. C'est pas David Joy qui était. Non, c'est pas David Joy. Je sais plus. Enfin, il y a pompier. Voilà. En France, il y a pas beaucoup, quoi. On a une littérature qui est quand même très soit du corps enseignant, de professeurs, qui est très bien, hein, très très bien, soit de gens qui sont mariés aussi, un compagnon qui accepte d'aider, un compagnon ou une compagne. Mais ça, je trouve que ça enferme dans une catégorie sociale qui n'est pas aussi ouverte qu'aux États-Unis où il y a des gens qui viennent de tous les métiers qui écrivent. On n'est pas très nombreux. Ça existe en France, mais on n'est pas très nombreux à écrire et avoir une activité qui n'est pas intellectuelle, quoi, par ailleurs, pour vivre.
Et jusqu'où cette activité non intellectuelle a participé de la manière d'écrire ce livre à pied d'œuvre, c'est-à-dire dans le style, dans la manière de penser l'architecture du livre? Est-ce que ça a eu une incidence ou pas du tout?
Quand j'étais en train de planer, on pensait à une blague, mais quand on est capable d'installer 15 étagères sur un mur pas droit, on est capable de faire un livre qui tient debout. Mais non, c'est...
On l'accepte, okay, bon, on la valide.
Ouais, j'ai mal dit, mais c'était l'esprit, quoi.
Et puis, y a un mot qu'on n'a pas utilisé, mais voilà, vous l'avez suggéré aussi dans plusieurs de vos réponses et qui revient dans le livre, c'est le sentiment d'imposture. Mais d'imposture, d'habitude, quand on le voit dans un livre, c'est plutôt pour les transfuges de classe, d'une classe inférieure à une classe supérieure. Or, vous l'utilisez dans le parcours inverse. Qu'est-ce que vous en avez fait de ce sentiment et comment vous l'avez ou non vaincu ?
C'est-à-dire que l'imposture, elle marche dans les deux sens. C'est vrai qu'on parle souvent plutôt d'une imposture vers le haut, mais je trouve qu'il y a une imposture aussi vers le bas. Quand j'étais plus jeune, j'étais souvent attiré. On avait une maison à la campagne avec mes parents et tous mes amis étaient des garçons ou des filles en apprentissage qui, dès 16 ans, commençaient à bosser. Et moi, je me retrouvais formaté à devoir faire des études que j'ai ratées de toute façon, que je n'ai pas faites. Mais il était hors de question que je me mette à travailler à 14 ou 16 ans. Ça, c'était même pas, on n'y pensait même pas. Et cette différence me faisait un peu souffrir. Moi, j'admirais l'habilité des garçons à plonger leurs mains dans les moteurs de mobylettes, de voitures. Ça fait con de dire ça, mais le milieu ouvrier m'attirait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui m'éloignait du snobisme de mes parents, de quelque chose que je connaissais trop bien chez mes parents et dans lequel je me sentais pas bien. J'aimais pas lire, j'aimais pas le cinéma iranien. Et c'est vrai que les gosses, les jeunes ouvriers avec qui je traînais, j'ai eu une image très positive de cette classe sociale. J'ai vu des très belles histoires, j'ai vu des gens heureux, j'ai vu des gens. En plus, à 16 ans, quand on est employé chez un patron comme apprenti, et ça, on est valorisé, on gagne de l'argent, on est indispensable. Et je voyais tout ça. Moi, j'avais rien de tout ça. J'étais le médiocre étudiant. Qui allait faire du droit ou de l'histoire à Tolbiac, qui n'y allait pas. Ça m'a toujours attiré. Donc, je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dessus.
J'étais parti sur le sentiment d'imposture.
Oui.
Et vous disiez que voilà d'où vous veniez.
C'est-à-dire que le fait que je les connaisse par mon enfance, par mon adolescence, que je connaissais cette. Pas mal. Je ne me voyais pas faire semblant d'être comme eux. C'est-à-dire que je me retrouvais dans la même situation dure physique, mais je n'avais pas leur. Je sais pas comment dire, mais je me sentais. Jouer une comédie. Et ça, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ce sentiment d'imposture. Sans être totalement hypocrite, c'était très délicat de garder sa personnalité et de continuer, surtout sur les chantiers, quand je fréquentais d'autres manœuvres. C'était très bizarre. Il y avait à la fois le patron qui était passionné de littérature et qui commence à me parler de livres parce qu'à un moment, dans l'annonce, j'avais mis que j'avais un projet artistique et que c'était pour ça que je faisais les petits boulots. Donc il me dit « Ah, c'est quoi comme projet ?» Je dis « C'est pour écrire. » Et donc, on est entre deux. Ouais, c'est toujours le même souci. Et essayer de rendre ça un peu drôle. Voilà.
Et dans quel état d'esprit avez-vous terminé l'écriture de ce livre qui est extraordinairement bien écrit, qui est drôle, mais dur aussi en même temps, qui mélange beaucoup de sentiments ?
Oh, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas si ça fait du bien à lire, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais bon, chaque livre, la fin d'un livre, c'est extraordinaire. Enfin, le début aussi. Qu'est-ce que c'est bon, le début. C'est parce que je suis en train de le vivre en ce moment. Et dans le train, là, j'ai trouvé une nouvelle phrase de début et j'en étais tellement heureux.
Voilà, on découvrira prochainement cette première phrase.
Peut-être.
Peut-être. Oui. Voilà, faut qu'elle résiste au temps et souvent à la première nuit.
Oui.
Mais en attendant, pour le dire en deux mots, j'ai cessé mon activité de photographe pour devenir écrivain. C'est ainsi que vous débutez.
Ouais, je veux bien l'expliquer une
seconde. Je vous en prie, bien sûr.
Pour le dire en deux mots, je viens de la nouvelle. J'adore la nouvelle. J'adore les textes très courts. Hein. Et pour le dire en deux mots, j'ai cessé, etc. Je trouvais que c'était une manière d'attraper le lecteur. Alors, je donne un peu les ficelles, mais c'est une manière de dire « Ok, je ne vais pas vous embêter. » C'est pour le dire en deux mots. Et puis, en fait, on est attrapé par l'histoire. Mais plutôt que de commencer par un truc un peu plus lourd qui peut rebuter, là, il y a un côté « Je vais vous raconter un truc pour le dire en deux mots. » Voilà, j'aimais bien ça. Voilà.
Votre « Il était une fois à vous, à pied d'œuvre ». C'est le titre de votre récit paru aux éditions Gallimard. Franck Courtès, un grand merci à vous.
pour cette conversation, pour vos lectures.
Merci.
Merci beaucoup à vous. Et vous allez pouvoir retrouver Franck en bas dans le hall. Alors je ne sais plus c'est auprès de quel libraire, mais vous pourrez le retrouver pour la séance de dédicace. Bonne suite de salon à tous.